Est-ce qu'on va arriver juste à temps? Hello, hello, darling. Est-ce que ça fonctionne? Yes, je crois bien que oui. OK, hello les amis. En ce beau mercredi midi, encore une fois, on est là pour un nouveau café coaching. Je vais installer un petit peu ma caméra, mes trucs pour bien pouvoir vous lire et vous voir. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est toi? OK, je me vends deux. Donc, on est là. Yes, contente d'être avec vous ce midi, les amis, pour parler d'un sujet qui me tient quand même pas mal à cœur. On a André qui est là, qui nous dit bonjour. Audrey, André et Audrey. Joanie, cool. En attendant que les gens se connectent, je vous rappelle tout le monde que si vous fouillez sur ma page, vous verrez qu'on sera très bientôt en lancement des ateliers parents leaders. Donc, très, très bientôt. Là, c'est le temps de vous inscrire maintenant, là. Très bientôt, vous allez avoir accès à du tout nouveau matériel sur le leadership éducatif. Donc, notre approche à Martin et à moi. Donc, ce sera une semaine entière, là, 7 jours, pour développer notre leadership éducatif, pour se perfectionner, aller chercher un petit peu plus là, de fine-tuning sur le leadership éducatif. Donc, c'est totalement gratuit. Comme régulièrement, c'est le cas. Vous avez le lien là, juste en haut ou aussi ailleurs sur la page. Donc, vous allez avoir droit à quatre vidéos, quatre ateliers où on va aller de façon un petit peu plus pointue sur notre approche au niveau du leadership éducatif. OK, ça commence à se loguer tranquillement, pas vite. Bonjour Marie-Ève, Marie-Hélène aussi qui est là. Ce midi, les copains, je veux évidemment revenir sur la situation. Je ne sais pas pour les Européens si vous avez entendu ça. Je vous annonce que vous allez l'entendre. Ici au Québec, depuis lundi, il y a quelque chose qui assomme un petit peu tout le monde. On a entendu dans les médias un petit peu partout les enregistrements d'une enseignante qui, ma foi, hurle sur les élèves. Donc, si je vous mets un petit peu en contexte, il y a des parents qui s'inquiétaient de ce que leur enfant leur rapportait de l'école. Ils étaient souvent inquiets en se disant, ben, tu sais, bon, le jeune disait que l'enseignante criait, qu'elle était très dure, il aimait plus trop l'école, il semblait très anxieux. Donc, les parents étaient inquiets par rapport à ça. Et le papa aurait trouvé un dispositif à mettre dans le sac d'école d'enfants pour enregistrer ce qui se passait à l'école et essayer de voir, tu sais, ben, qu'est-ce qu'il y en a, hein? Tu sais, on le sait, hein, nos enfants, des fois, quand ils nous rapportent les choses, ça se peut qu'ils exagèrent un petit peu, ça se peut qu'ils déforment les choses. Donc, le papa a voulu entendre ce qui se passait. Et il a rendu la vidéo accessible aux médias et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé. Donc, on entend une enseignante de première année du primaire, donc c'est des enfants de 6-7 ans, c'est des tout petits, l'enseignante qui hurle carrément sur les enfants, manque de respect, utilise le sarcasme. Et tout à l'heure, je vous le dis, là, on va décortiquer un petit peu ce qui s'est passé et voir où est-ce que c'est totalement inacceptable. Donc, tout ça a circulé, tout le monde est un peu scandalisé, l'enseignante a été suspendue de ses fonctions. Et ça amène, je trouve, la possibilité d'ouvrir la discussion sur la violence en éducation. Là, les amis, je veux que d'emblée, OK, on n'est pas là pour faire le procès d'une enseignante. On n'est pas là pour faire, encore moins là pour faire le procès du système scolaire au complet ou de tous les enseignants et enseignantes. Sachez que pour avoir travaillé en milieu scolaire, la très large majorité des enseignants et enseignantes sont très, très bienveillants, veulent le bien de l'enfant. Parfois, bon, il y a des méthodes avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord. Il y a des petits trucs qui peuvent être inadéquats de temps en temps, mais tu sais, ce qu'on entend dans cette vidéo-là, moi, je n'ai pas entendu ça nulle part. Maintenant que ça sort dans les médias, il y a d'autres parents, puis d'autres enseignants, puis d'autres personnes du personnel scolaire qui disent qu'ils ont déjà entendu ça dans d'autres endroits. Je sais que ça peut même aussi exister en garderie. Mais moi, mon objectif ce midi, ce n'est pas de faire le procès de personne. Mon objectif ce midi, c'est qu'on se serve de cette situation-là pour se demander et tourner le miroir un peu vers soi. Dire, moi, est-ce que j'ai tendance, quand je suis en colère, quand je suis fatiguée, quand mes enfants n'écoutent pas, est-ce que j'ai tendance à déraper un peu vers la violence éducative? Là, avant qu'on se parle de ça, donc bref, je ne veux pas qu'on tombe dans le jugement de la personne. Ceci dit, les actions sont inacceptables. Donc, on peut avoir un regard critique sur la façon de faire de la personne sans juger la personne comme telle. Donc, je voudrais pas qu'on ait de message d'insulte envers cette madame-là. Je trouve ça épouvantable. Mais maintenant, je pense qu'on peut quand même se permettre d'avoir un regard critique et dire, OK, bien, ce qu'elle fait, la façon dont elle s'y prend pour faire la discipline dans sa classe, ça, c'est totalement inacceptable. C'est de la violence. Est-ce que cette dame-là est violente? Je ne sais pas, je ne la connais pas. Mais ce qu'elle fait, c'est de la violence. Et ce qu'elle fait, c'est totalement inacceptable. Moi, là, dans l'histoire, par contre, ce qui me défrise le plus, ce qui me dérange le plus, c'est même pas tant... Bon, je trouve ça épouvantable, ce que cette dame-là fait. Je trouve ça épouvantable pour les pauvres loulous qui sont dans la classe. Je me dis, oh my God, ça, on va se parler justement des impacts de cette violence-là. Mais ce qui me défrise le plus, c'est les commentaires. Sur les en tout cas sur Facebook, en dessous des articles de journaux, en dessous des articles, écoutez, j'en perds mon latin, en dessous des articles, en dessous des entrevues, on voit les commentaires et malheureusement, dans les commentaires, je vois un commentaire sur 10, un commentaire sur 15 qui soit approuve la dame, soit justifie son comportement. En disant, soit on justifie son comportement en disant, ah, les enfants d'aujourd'hui sont difficiles, quand tu passes ta journée avec des enfants gâtés qui obéissent pas, c'est normal que tu sortes de tes gonds. OK. Oui. C'est normal que la patience d'un enseignant ou d'un parent manque parfois. Donc, oui, c'est vrai que dans les écoles, dans les classes, il y a de plus en plus d'enfants avec des comportements dérangeants. Je sais que c'est épuisant. Donc, il y en a qui justifient en disant « la dame est manifestement épuisée, est peut-être en burn-out. » Bon, dans les justifications que j'ai lues aussi, c'est la faute du système. Il y a trop de monde dans les classes. Les enseignants manquent de soutien. OK, tout ça, c'est vrai. Et tout ça justifie que des enseignants puissent être fatigués. Tout ça justifie que des parents, que des enseignants parfois puissent manquer de moyens. Tout ça justifie que des parents et des enseignants, ben, mettons, on va parler des enseignants, puissent parfois manquer de patience. Donc, ça justifie l'émotion. Ça ne justifie pas le comportement. Comme adulte, on peut être fatigué, épuisé. On peut être devant un enfant qui a des problèmes de comportement et même un adolescent. Là, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les centres jeunesse avec des adolescents en troubles graves du comportement. Donc, je me suis fait cracher dessus, je me suis fait insulter, je me suis fait menacer, je me suis fait pogner les seins, je me suis fait kidnapper, je me suis fait lancer des chaises. Hein? Mais malgré tout ça, ça ne justifierait jamais que je hurle, que j'utilise la violence et les manques de respect. Donc, peu importe le comportement de l'enfant, ça peut justifier qu'on perde patience puis qu'on soit, mais ça ne justifie pas la violence. Non. C'est vrai que les profs manquent de soutien. Tout ça, c'est vrai, là. Est-ce qu'il faut revoir le système? Ben oui, tout à fait. Maintenant, il faut faire attention entre expliquer l'émotion, expliquer la fatigue et justifier le comportement. C'est injustifiable. Ce qui m'a défrisé le plus, c'est de lire certains commentaires, puis j'en ai vu plusieurs, des adultes qui disaient Ah, ben oui, ben c'est ça, hein, à écouter les spécialistes aujourd'hui, il faudrait laisser les enfants tout faire. C'est correct qu'il y ait un retour à l'autorité. Un instant. C'est pas de l'autorité, ça. Ça, c'est de la violence. Est-ce que, oui, il faut qu'il y ait un retour à une saine autorité? Ouais. Est-ce que c'est important qu'on développe de la fermeté bienveillante? Ouais. Est-ce que, moi, la première, tu sais, je constate que parfois, en voulant être des bons parents, positifs et bienveillants, tu sais, dans certains cas, je vois des dérapages, tant chez des parents que dans certains discours d'intervenants, ou tu sais, dans certains cas, je trouve que on présente toute forme d'autorité comme une violence éducative ordinaire, hein? Puis j'ai déjà fait un autre live là-dessus, là, si vous allez fouiller dans mes vidéos, vous allez en voir un, où tu sais, j'amène plusieurs bémols par rapport aux violences éducatives ordinaires. Tu sais, pour certains auteurs, appliquer une conséquence logique, c'est une violence éducative ordinaire. Pour certains auteurs, froncer les sourcils, c'est une violence éducative. Toute forme de retrait ou de time-out ou d'arrêter une activité, ce serait une violence éducative ordinaire. Ne pas proposer plusieurs choix à un enfant à l'heure du repas, ce serait une violence éducative ordinaire. Tu sais, ça, pour moi, c'est des dérapages, là. Tu sais, moi, je trouve qu'on l'a effectivement, ça va trop loin. À la base, la parentalité positive et bienveillante, c'est pas ça. Normalement, il y a une notion de fermeté, mais bon, il y a toutes sortes d'interprétations. Mais c'est pas vrai qu'on a le choix entre être des parents serviteurs qui laissent les enfants tout faire ou utiliser la violence. Ben non, il y a quelque chose dans le milieu, là, qui s'appelle la fermeté bienveillante, le leadership éducatif, c'est là qu'il vient s'installer. Et là, les parents, tu sais, je lisais des commentaires de gens qui disaient, oui, mais là, tu sais, à un moment donné, quand un enfant te rit au visage, c'est normal que tu interviennes. Ah ben oui, je suis parfaitement d'accord. Je ne vais pas laisser l'enfant faire n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai que la seule intervention, c'est les insultes et les cris. Il y a une panoplie d'interventions. Visitez ma chaîne YouTube, j'en donne 8 tonnes dans dans notre semaine qui s'en vient, la semaine du leadership éducatif, la semaine, la semaine des ateliers parents leaders. Dans les ateliers parents leaders qui s'en viennent bientôt, on va en voir aussi encore des trucs, des astuces. Dans le défi parents leaders qu'on a fait en février, il y en avait tout plein des astuces. Donc, des stratégies d'intervention, il en existe plein. Mais entre laisser les enfants tout faire et tomber dans la violence, il y a une marge, là, il y a toutes sortes de nuances. Donc, moi, ce qui m'a le plus étonnée, défrisé, abasourdi, c'est vraiment de réaliser que, il y a encore une partie de la population pour laquelle être ferme, ça équivaut à être agressif. Et je veux démêler ça avec vous ce midi, OK? Je suis consciente que plein de gens sont mêlés. Ce que je vous propose, dans un premier temps, je viens vous dire bonjour. Steve dit, en effet, j'ai déjà cette mauvaise attitude avec mes garçons, donc évidemment, je peux pas lancer la première pierre. Oui, c'est ça. Puis, ah oui, une des excuses, un des commentaires que j'ai vu assez souvent aussi, qui m'a vraiment défrisé aussi. C'était de lire que pour certaines personnes, ils disaient, ben voyons, tu sais, pauvre enseignante, ça nous arrive à tous de perdre patience. Ben oui, moi aussi, ça m'arrive de perdre patience, les copains. Ça m'est déjà arrivé pour chacun des trois enfants, non, deux sur trois, avec ma fille, j'ai été longtemps maman monoparentale, etc. Ça m'est arrivé à quelques reprises de l'échapper et de devoir m'excuser, de devoir faire amende honorable. Ça m'est arrivé avec le plus vieux des fils de mon chum, de Martin, de carrément crier, là, et de devoir m'excuser par la suite. Est-ce que ça nous arrive tous à un moment donné de déraper? Ben oui. Maintenant, ce qu'on entend dans cette vidéo-là, dans cet enregistrement-là, ce n'est pas une enseignante qui l'échappe un peu une journée où elle était vraiment à bout de nerfs et que c'est arrivé une fois dans l'année, là. On parle de quelqu'un qui semble utiliser les cris, les menaces, les hurlements, les sarcasmes, les manques de respect de façon régulière et continuelle pour faire régner l'autorité, je dirais plus la terreur, dans sa classe. Semblerait que plusieurs personnes ont déposé des plaintes et qu'il n'y avait pas eu de suivi par rapport à ça. Donc, tu sais, est-ce que ça nous arrive à tous, à un moment donné, de faire un pas de travers? Ben oui, tu sais. En même temps, les parents, puis là, la dernière chose que je veux sur la terre, c'est que vous vous sentiez coupable. OK? On s'entend là-dessus, là. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez être des bons parents. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez faire de votre mieux. Puis que vous les aimez, vos enfants, sinon vous ne perdriez pas votre temps avec moi. Je ne veux pas que vous vous sentiez coupable, mais je voudrais que vous preniez la pleine responsabilité de vos actions. Si régulièrement, ou même, tu sais, même si c'est juste une fois, si je dis des choses extrêmement blessantes à mes enfants, si je leur hurle dessus, que je les frappe ou que je leur fais vraiment peur, ben il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça ne marche pas là. Ça reste totalement inacceptable. Dans un monde idéal, on ne se rend jamais là, là. Bref, ce que je vous propose présentement, c'est qu'on reparte un petit peu. Ah, Steve, ta question est excellente. Pourquoi ça s'appelle de la violence éducative ordinaire? Car avec mon parcours, je trouve ça loin d'être ordinaire. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a une différence entre la violence éducative ordinaire et la violence telle qu'on l'a entendue dans la vidéo, puis qu'on va l'entendre, je vais vous la faire entendre, la vidéo. Pas la vidéo, l'audio. Les violences éducatives ordinaires, c'est les petites violences qu'on fait au quotidien qui, on pense que c'est éducatif. On fait ça, dans le fond, avec la bonne intention d'éduquer les enfants, mais c'est moche. Mettre un enfant au coin, c'est une violence éducative ordinaire. C'est une méthode éducative qui a largement été utilisée par le passé un peu partout, mais c'est humiliant. Donc, c'est poche. Est-ce que c'est extrêmement violent? Non. Plein d'entre nous ont déjà mis le nez au coin quand ils se conduisaient mal. Puis, bon, écoutez, on s'en est sorti, mais on a probablement des bonnes relations avec nos parents, on leur en veut pas, mais tu sais, c'est moche, hein? Donner la petite tape sur ses doigts à un enfant, c'est une violence éducative ordinaire, c'est inadéquat, c'est pas une méthode éducative qui est bonne, ça reste de la violence, mais ça a été largement utilisé par le passé, par les gens, pour faire de l'éducation. Un autre exemple de violence éducative ordinaire, ce serait, écoutez, il y en a. Puis là, ben, c'est parce que je ne suis pas toujours d'accord avec les listes, là. Puis, tu sais, je trouve que dépendamment de ce qu'il y a sur les listes de violence éducative ordinaire, vous pouvez aller fouiller sur Internet. Il y a des trucs dans certains contextes, je trouve que ça peut être adéquat. Puis, dépendamment de l'attitude de l'adulte, ça peut être adéquat. Mais bref, pour dire que les violences éducatives ordinaires, c'est les petites violences du quotidien. Tu sais, je veux moucher mon enfant, tiens. Je l'ai souvent avec ça, je le fais en conférence. T'sais. J'ai un enfant de 2 ans, 3 ans, je vois qu'il a la morve au nez. Je débarque, puis je l'attaque avec un Kleenex sans le prévenir. C'est un peu agressant. C'est une violence éducative ordinaire. D'un monde idéal, on lui présente le Kleenex avant, puis on le prévient. Prendre un enfant par le bras, t'sais, pour. Je ne parle pas de le serrer, là, ça pour moi c'est de la violence trop, mais tu sais, je veux que mon enfant s'en vienne ici, je le prends par le bras puis je l'envoie là. On vient pour partir du parc, du terrain de jeu, mon enfant ne veut pas, je lui prends la main puis je tire. C'est des choses qu'on a vues souvent, c'est des petites violences, là. Il y en a qui appellent ça les douces violences. J'aime pas le mot douce parce que je trouve que ça ne va pas ensemble, mais en tout cas. Fait que ça, pour moi, c'est des violences éducatives ordinaires. Ce qu'on a entendu, crier, hurler sur nos enfants, les menacer, utiliser le sarcasme, les diminuer, ça, pour moi, c'est de la violence tout court. Il n'y a rien d'éducatif, il n'y a rien d'ordinaire là-dedans, c'est de la violence. D'ailleurs, si j'ai bien compris, il y a une plainte policière qui a été déposée contre l'enseignante et une plainte à la protection de l'enfance, là, à la DPJ. Je voudrais juste, donc, je vous propose, on va écouter l'enregistrement, si je peux le trouver. On va écouter l'enregistrement. Est-ce que. Yeah. On va écouter l'enregistrement, puis je vais l'arrêter régulièrement pour bien vous aider à faire la différence entre de l'éducation, un petit pétage de coche ou un peu trop de fermeté, mais quand est-ce qu'on tombe dans la violence? OK. Là, on entend, hein, OK? On a quelqu'un qui hurle. Et là, je veux commencer par parler du ton, les amis. Est-ce que comme parents, ça peut nous arriver à nous, à tout le monde, de devoir hausser le ton dans des circonstances exceptionnelles? Tout à fait. T'sais, donc, hausser le ton, c'est de dire, hey, stop, non. Par exemple, j'ai un enfant de 5-6 ans qui n'est pas content contre moi puis qui me frappe. Ça serait correct et normal que je fasse, hey, non. Stop! Ça serait même normal que je lui fasse les gros yeux. Hey! Non, non, non! Ça, c'est sortir ma grosse voix. Maintenant, je vais revenir, OK? Des fois, ça se peut même qu'on crie, on l'échappe, là, puis on tombe dans je crie, puis là, je perds le contrôle un peu. C'est comme hey, non! Attends! Là, je suis en train de crier. Bon, je ne suis pas en train de crier bien fort, mais je crie. Maintenant, le micro filtre le son quand il est trop fort. OK. OK. Bon. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Bon, on va laisser faire dans ce cas-là pour. Zut. Je vais en trouver. On va essayer autre chose tout à l'heure. Donc, Là, hausser le ton, c'est hey, stop. Je sors ma grosse voix. Crier, mais ça va être un petit peu plus aigu. Un peu plus en perte de contrôle. Mais là, on a une dame dans cet enregistrement-là qui hurle. Elle n'est pas. Elle est absolument pas dans une situation où elle est en maîtrise d'elle. Okay? Et là, dans le premier extrait, puis on va en essayer d'autres tout à l'heure, dans le premier extrait, je vais essayer de le reculer un tout petit peu, voir si je suis capable. On va essayer.
Ça se passe, c'est le centre de service.
Attendez.
On a envoyé...
Je sais pas, est-ce que vous avez mieux entendu? Alors bref, on avait quelqu'un qui hurle. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, les gens, le problème dans cet extrait-là, bon, il y a le fait qu'elle hurle, OK? Quand elle hurle, c'est vraiment problématique. Lever le ton, ça peut être adéquat. Un peu, oui, c'est un peu mieux, OK. Le problème, entre autres, ici, tu sais, c'est que lever le ton, si j'ai un enfant qui me frappe, si mon enfant est en train de faire quelque chose de vraiment dangereux pour lui, s'il manque de respect vertement, je fais « Hey, non, tu ne me parles pas comme ça », ça peut être adéquat. Maintenant, même si de lever le ton, ça peut être correct, le problème vient, entre autres, quand j'utilise ce ton-là régulièrement. Si chaque fois que mon enfant ne collabore pas au moment où je le veux, j'ose toujours le ton, ben on va quand même être dans la violence. Tu sais, si c'est « Noémie, ferme la porte! » « Ah oui! Je t'ai dit de fermer la porte! Ah, crime! Tu vas-tu finir par m'écouter? Et que je suis tannée! » Ah ouais, viens ici, là. Là, c'est l'heure de tes devoirs. Tu t'installes. Et là, regardez bien, je n'ai même pas besoin d'hausser le ton là, pour être dans la violence. Tu t'installes tout de suite. Ah ouais, assis-toi comme il faut. Je ne suis plus nécessairement en train d'hausser le ton, mais j'ai comme les dents serrées. Hey, ça va faire. Non. J'ai vu des parents utiliser même avec des tout petits là. Hey, non! Qu'est-ce que je t'ai dit? Ôte-toi de là! Viens ici tout de suite! Viens-t'en ici! Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que tu veux que maman se fâche? Et là, OK, si ça arrive une fois par mois, dans une semaine particulière, que ça vous arrive une fois de temps en temps, c'est peut-être pas la fin du monde. Mais si c'est régulièrement votre façon d'intervenir et d'interagir avec vos enfants ou de vous faire obéir, et là, j'ai utilisé volontairement le mot obéir, on est dans des méthodes éducatives qui visent la soumission. Je veux que mon enfant se soumette. Et là, ben, on se retrouve avec une espèce de fond agressif tout le temps. Je t'ai dit non, ôte-toi de là, arrête. Tout ça, c'est de l'agressivité, les copains. C'est une méthode éducative intimidante. On s'est parlé beaucoup d'intimidation dans les dernières semaines. Mais je vous dirais qu'une bonne partie des enfants qui font subir de l'intimidation viennent de familles où l'intimidation est une méthode éducative. Ayez en tête, les amis, que quand ma façon d'intervenir vise à, tu sais, je l'entends là, je vais le saisir. Il va apprendre à obéir. Il va comprendre que c'est moi le boss. Quand on est là-dedans, on est dans des rapports de force dominant-dominé. La saine autorité peut faire que de temps à autre, dans des situations extrêmes, je sois obligé de faire « Hey, oh, non! Stop! Tu arrêtes tout de suite. Je ne suis pas d'accord. » Mais si c'est au quotidien que j'ai ce ton-là, ça ne marche plus. Ça devrait être, tu sais, quelque chose qui prend ce ton-là, hausser le ton, mettre un stop, hey, ça suffit, c'est assez. Ça peut arriver, mais ce n'est pas supposé nous arriver à tous les jours. On est supposé avoir une gamme d'interventions qui nous évite de se retrouver là à tout bout de champ. Même si on a un enfant en trouble de comportement, même si et surtout si on a un enfant en trouble de l'opposition, même si et surtout si on a un enfant qui a un TDAH. Pourquoi? Parce que ce ton-là, brusque, sec, trop autoritaire, chez plusieurs enfants, ça vient alimenter leur opposition. Donc, on se retrouve on risque d'embarquer dans un cercle vicieux. Plus j'utilise le « Hey, non, t'arrêtes, ça suffit. Et colline que je tenais, t'arrêtes. » Plus j'utilise ça, plus on est dans des rapports de force, plus mon loulou va chercher à se protéger, plus il va aussi se désensibiliser face à ça, parce que moi, une des choses qui m'a le plus ébranlé de cette vidéo-là, de l'enregistrement de l'enseignante, c'est qu'on n'entend pas d'enfants se mettre à pleurer. C'est comme s'ils se sont habitués à avoir l'enseignante qui fait ça. Et voyez-vous, il y en a une, on l'entend dire, puis là, c'était l'extrait tout à l'heure, « Toi puis ton riage, ça va faire, ou c'est assez, ou c'est fini, ou quelque chose comme ça. » Bien, notre loulou qui rit dans la classe, quand l'enseignante crie, hurle comme ça, bien, c'est un mécanisme de défense. Il cherche à se protéger probablement. Mais c'est aussi signe que ça ne le terrorise plus. Bien, moi, je vous annonce qu'écoute, notre grand de 16 ans, là, si je lui parle comme cette enseignante-là parle, puis là, il est 16 ans, il est plus grand que moi, là, c'est sûr qu'il se met à pleurer puis qu'il resterait tellement surpris. Je pense qu'il mettrait 3 semaines à s'en remettre. Là, il ne s'attendrait pas à ça. Ça alimente leur anxiété, tout à fait. Être en collaboration, effectivement, Pascal, il faut trouver des stratégies ou chercher des stratégies ou essayer des stratégies qui visent à ce qu'on soit la plupart du temps en collaboration. Est-ce qu'il y aura des moments où on va devoir aller un petit peu plus vers de la fermeté? Oui, ça se peut, tu sais, mais ça ne devrait pas être le quotidien. Steve, merci. La formation parents leaders a fait en sorte qu'aujourd'hui, je m'entends bien avec la DPJ parce que, tu sais, bon, Steve le dit en toute transparence, puis je trouve ça magnifique. Il a été ce papa-là qui avait tendance à utiliser la peur dans ses interventions. Puis on s'entend, là, Steve, je pense que tu as des enfants qui ont un tempérament très fort, qui ne sont pas nécessairement des enfants dociles non plus. Mais tu as eu à composer avec la protection d'enfance, la DPJ, puis tu as changé tes méthodes, puis maintenant tu es beaucoup plus en paix avec toi et dans ta relation avec tes jeunes. Et c'est ça, tu sais, mon objectif aujourd'hui n'est surtout pas de culpabiliser personne. Mon objectif aujourd'hui, les amis, c'est vraiment que vous preniez conscience de votre façon de faire l'autorité. On n'est pas obligé d'être dans « je laisse mes enfants tout faire », mais on va essayer d'éviter de tomber dans l'excès inverse. Ici, je n'arrive pas à sentir la colère monter. C'est « on-off » niveau colère. Et ce que j'ai envie de vous dire, coffret ni d'image, ce que j'ai envie de vous dire, c'est la colère, elle est légitime. Moi aussi, je suis un peu comme ça, dans le sens où je suis zen, 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 d'un coup, fou, les gaskets sautent. Que la colère est souvent, bon, normale, saine, ça fait partie de la vie de parent. Puis bon, parfois, on peut être un peu plus impulsif. T'sais, moi, j'ai un TDAH, fait que donc j'ai l'impulsivité un petit peu plus présente. Donc, effectivement, je peux partir assez facilement de 0 à 10 sur l'échelle de Richter de la colère. Tu sais, ça monte en bouffée. Ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on la laisse s'exprimer, cette colère-là, de façon violente. On est toujours, et je dis bien toujours, qu'on ait bu de l'alcool, qu'on ait fumé du pot, qu'on ait une grosse semaine, qu'on soit stressé, que notre enfant nous rit au visage, soit en train de démolir la maison, on est toujours responsable de nos actions. Et dites-vous bien, gang, puis là, je vais être dur, là, mais dites-vous bien que, admettons que je suis chez vous en coaching, pensez à vos réactions avec vos enfants dans les dernières semaines, dans les derniers mois, alors que vous étiez en colère. Si vous éprouviez la même colère, mais je suis chez vous, je vous observe. Est-ce que vous auriez les mêmes réactions? Si vous me dites que non, vous n'auriez pas la même réaction si vous étiez observé ou filmé, ben ça veut dire que vous êtes capable d'avoir la maîtrise sur vous pour ne pas avoir cette réaction-là. Et ça veut dire que vous savez que cette réaction-là, elle est de mesurer. Donc, si vous êtes capable de vous maîtriser et de freiner vos comportements devant moi ou quand vous êtes filmé, vous êtes capable de freiner vos comportements quand les enfants, quand il n'y a personne qui vous surveille. L'enseignante dont il est question, là, à votre avis, s'il y avait eu une caméra dans la classe, ou si moi j'avais été dans la classe, parce que ça m'arrive là, d'aller dans des écoles faire de l'observation, pas pour l'enseignant, mais plus pour l'élève, est-ce qu'elle aurait utilisé ces paroles-là, ces techniques-là? Je pense pas, moi. Continuons un petit peu, parce que je trouve ça important qu'on revienne sur certains éléments, certaines croyances aussi au niveau de l'éducation. Moi, je pense que cette enseignante-là, je la connais pas, hein, au-delà de « elle était épuisée, fatiguée », je pense qu'il y avait des croyances derrière, qu'elle pense que c'était peut-être des bonnes stratégies. Ah, bon. Juste pour bien faire. Elle vient de dire « pas d'avertissement, ça c'est le seul avertissement que tu vas avoir eu. » On laisse zéro marge de manœuvre aux enfants. Quand on parle à nos enfants les dents serrées, on est dans de l'agressivité, de la violence, les copains. Tu vas faire ce que je te demande. Au lit, tout de suite, ça presse. C'est de l'agressivité. On est en train d'utiliser la peur. Inconsciemment, ce qu'on veut, c'est que l'enfant ait peur. Il y a un petit mot aussi que j'entends souvent en éducation. C'est-tu clair? C'est-tu clair? Est-ce que c'est clair pour les Européens? Ah, ben non. C'est pas... Moi, là, écoutez... Il y a une formation, si ça vous tente d'aller l'écouter, je ne l'ai pas mis en haut parce que on a nos ateliers qui s'en viennent bientôt, là, mais il y a une formation qui s'appelle, je l'ai mis sur la page, là, un mot de trop, éduquer sans humilier, blesser ou faire peur. On fait le parallèle un peu dans cette formation-là entre comment on parle à nos enfants et comment on n'accepterait jamais que notre conjoint nous parle. Imaginons que... mon mari m'a demandé un truc à faire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il n'est pas d'accord avec l'intervention que j'ai faite sur son garçon. Et qu'il vient vers moi et qu'il me dit « Ça, tu ne parles plus jamais comme ça à mon garçon, c'est-tu clair? Est-ce que c'est clair? » Est-ce que j'accepterais? Ben non. J'accepterai jamais. C'est de la violence. Alors, pourquoi est-ce que si c'est de la violence de la part de mon mari, ce ne serait pas la violence de la part pour mon enfant? Ça ne marche pas. On continue. Elle parle tout le temps comme ça, ça va faire, puis là, t'écoutes pas. Est-ce que vous faites régner un climat, une ambiance négative dans la maison? Je veux vraiment, tu sais, puis c'est ça, hein, l'objectif d'écouter ça, c'est pas de juger l'enseignant. C'est de reprendre ce qui se passe là, puis de dire, moi, j'ai-tu tendance à le faire chez moi? Si oui, je peux-tu me réajuster? Beaucoup de parents ont un ton ou une attitude militaire. Le matin, routine du matin, c'est « OK, toi, tu t'en viens ici, toi, tu fais ça. Non, là, tu ramasses tes trucs. Hey, Antoine, qu'est-ce que je t'ai demandé? Hein? C'est quoi ma consigne, là? Grouille, dépêche. Envoie, on te... » il y a quelques années. Je suis allée faire de la raquette et on arrête à un endroit pour pique-niquer et il y a une maman qui arrive avec ses deux garçons. Et bon, maman, grand-maman et les deux garçons. Et elle a, bon, sans que ce soit aussi excessif que l'enseignante, elle a cette espèce de ton militaire-là tout le temps. T'sais, c'est comme, bon, OK, tu t'assois. Assis. Hey, assis. Bon, sortez vos lunchs, là. Non, attention, là, tu vas tout échapper par terre. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Maman, aide-les donc, là. Oh, mange-le, toi. Ah oui, arrête de niaiser, là, parce que là, on n'a pas une demi-heure, là. Dépêche. Qu'est-ce que je t'ai demandé, là? Regarde, moi, t'a dit, là, t'en as mis partout, là, sur ton manteau. Qui va être obligé de laver le manteau, tu penses, hein? Et là, elle part constamment à ses enfants comme ça. Non, OK. Bon, là, les amis, là, on se dépêche. Bois un petit peu de ton jus, là. Maman, aide-le, là. Tu vois bien, là, qu'il y a de la misère. Et il y a tout le temps cette espèce de ton excédé là. Dans beaucoup de familles, je sais que c'est comme ça. Le matin, entre autres, où on est stressé, fatigué, il faut que ça gaule, les enfants se fouillent dans le nez, ils prennent leur temps. Non, qu'est-ce que je t'ai dit? Envoie ta page. Sachez, les parents, que si vous utilisez un ton excédé à temps plein, bien, un, c'est extrêmement corrosif pour l'estime de soi de vos enfants. Et deux, bien, ça génère de l'opposition. Il y a quelques années, ma fille a à peu près 9 ans, je l'ai déjà raconté, mais ma fille a à peu près 9 ans et on est dans un grand magasin, on est en file pour payer à la caisse et devant moi, il y a une maman avec deux garçons et elle a toujours ce ton excédé-là. Touche pas! Attention là, avec le camion, avec le chariot, là, tu vas accrocher la dame en avant. Bon, là, les gars, là, vous n'êtes pas fins, là. Non, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu ne touches pas à ça. Ah, décolle un peu, là, c'est pas le temps, là. Mets les trucs sur le panier, sur le comptoir. Allez, après, qu'est-ce que je t'ai demandé? Et là, elle parle toujours comme ça. Et ma fille me tire sur la manche et me dit à l'oreille, maman, pauvre garçon, ils doivent tellement avoir l'impression d'être de trop dans la vie de leur mère. Bien, c'est ça le problème. C'est qu'à toujours avoir un ton excédé, bien, on risque de faire sentir à nos enfants que, bien, ils sont de trop dans notre vie, qu'ils nous tapent sur les nerfs. Hélène a dit, il m'arrive d'être sèche le matin et mon chum est un caporal au souper. Bien, tu sais, je vous dirais que si ça nous arrive tous, là, OK, de devoir, puis des fois, on est obligé de le faire. C'est comme, bon, OK, là, ça suffit, on arrête de niaiser, go, 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 ça bouge. Toi là, c'est correct. Si c'est comme ça, plus qu'une fois sur deux le matin, bien, tu sais, c'est parce que plus on va être comme ça, plus nos enfants vont attendre qu'on sorte, justement, le chapeau de caporal pour collaborer. Et là, ben, à un moment donné, quand on va être dans une approche plus douce, plus bienveillante, plus légère, ils ne nous prendront pas au sérieux parce que, ben, ils sont tellement habitués qu'on soit toujours là-dedans. Donc, il faut faire attention. Si, tu sais, bon, on dit, bon, ben, mon chum est un caporal au souper, ben, ça aussi, je le vois souvent, là, tu sais, votre chum n'est pas, il fait pas exception. Mais justement, c'est que le problème, c'est qu'on risque d'amener les enfants progressivement à ne plus aimer l'heure des repas. Je me souviens, moi, avec un ex qui était comme ça, tu sais, à l'heure du souper, c'était bon, tu manges encore 3 bouchées, puis tu t'assois comme il faut, puis attention, puis là, t'en as mis à côté de ton assiette. J'avais dit, OK, non, moi, c'est pas vrai que je vais avoir ce climat-là, cette ambiance-là, à l'heure des repas. Puis, ben, si c'est ce que tu veux avoir pour ton fils, moi puis ma fille, on va juste pas manger en même temps, parce que c'est pas vrai que, tu sais, pour moi, les repas, c'est quelque chose de relax. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aux enfants à l'heure du repas, bien tenir leur fourchette, tout ça. Mais l'ambiance est super importante. Est-ce que, puis tu sais, au-delà de ça, là, tu sais, c'est sûr que je donne des exemples, mais puis bon, cette enseignante-là est un exemple extrême. Mais est-ce qu'en général, l'ambiance qu'il y a chez vous, est-ce que c'est une ambiance de légèreté, de joie? De dynamisme, de collaboration. Tu sais, le leadership éducatif, là, c'est de faire équipe avec son enfant pour créer une atmosphère. C'est être un parent leader, c'est un peu comme être un leader d'entreprise. Ce n'est pas un rapport de force, c'est la différence entre être un boss puis un leader. Ben, est-ce qu'à la maison, je suis un boss ou je suis un parent leader? Donc, tu sais, est-ce que je crée? Parce que n'oubliez jamais, gang, que vous êtes la locomotive du train familial. Vous êtes le chef de meute de votre maison. Donc, c'est vous qui donnez le beat. Ça se peut que, bon, mes enfants ne soient pas dans un mode collaboratif, ça se peut que ma préado ait une attitude de pouette, ça se peut que le petit dernier ait mis ses cornes, puis bon, c'est vrai que c'est difficile de gérer notre patience. Maintenant, c'est non seulement on est modèle, mais en plus, c'est nous, tu sais, la locomotive. Donc, si moi, je réagis à leur comportement par une attitude de pouette, hey, change d'air! Ben non, ça ne marchera pas. je me retrouve un peu dans ce discours d'approche excédée avec mes deux ados à qui j'ai toujours quelque chose à dire, reprocher. Ils n'ont pas rangé, oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, plus on a cette attitude-là excédée, impatiente, directive, de reproches, de critiques, etc., plus leur envie de collaborer descend. C'est directement relié. Véronique dit, comment gère-t-on le niaisage qui n'aboutit pas malgré nos interventions? Ce que je vous dirais, c'est que la première étape, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que moi, par mon attitude, je donne l'envie de collaborer ou pas? Tu sais, je donne souvent l'exemple en conférence pour le fun de dire, tu sais, si mon chum vient me voir alors que je suis en train d'écouter la télé et qu'il fait « Nancy, vaisselle, go! » Tout de suite. Non, moi, j'ai fait ta souper, tu vas faire la vaisselle. Maintenant, go! Si mon chum a ça comme attitude, qu'est-ce que ça me donne envie de faire? De lever des doigts du milieu, hein? De l'envoyer promener, de faire de la surdité sélective. Ça me donne absolument pas envie de collaborer. Donc, est-ce que moi, dans ma façon d'aborder mes jeunes, je leur donne un des directives qui sont claires, possibles et atteignables? Est-ce que je le fais sur un ton qui est agréable? Est-ce que je le fais au bon moment aussi? Tu sais, si mon jeune, là, je n'ai un ado à la maison, là, un ado, ça vient que des comportements d'ado, tu sais. Fait que si, tiens, par exemple, on vient de sortir de table et mon adolescent a eu une façon créative de mettre sa vaisselle au lave-vaisselle, il fait ça parfois, c'est assez intéressant. Donc, plutôt que de la rincer, il passe un peu en dessous de l'eau, mais tu sais, c'est pas vraiment rincé, il met ça n'importe comment dans le lave-vaisselle. Ben, tu sais, si j'attends qu'il soit remonté dans sa chambre, installé comme il faut dans ses devoirs et leçons, ou qu'il soit devant la télé, ou bien qu'il ait ouvert son jeu vidéo pour lui dire « Hey, viens, viens, viens! Viens ranger ta vaisselle comme il faut, là. Là, tu as fait ça tout croche, miam, 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 miam. Ben, tu sais, c'est sûr, moi, notre ado, c'est une soie, là. Mais c'est sûr que si je fais ça, il va mal réagir. C'est sûr qu'il va se traîner, qu'il va se traîner les pieds ou qu'il va le refaire une deuxième fois de façon inadéquate, etc. Donc, bref, la première question à se poser, c'est est-ce que moi, par mon attitude, par l'ambiance que je crée, est-ce que je crée un espace collaboratif? Si j'ai besoin de me calmer le pompon parce que la moutarde me monte au nez, ça m'arrive à moi aussi, là. Tu sais, quelqu'un disait, ça nous arrive à tous de perdre patience. Ben oui, puis moi aussi, là, je veux dire, je suis loin d'être un ange. J'ai un tempérament très fort. Mon chum est beaucoup plus patient que moi. Donc, la moutarde me monte au nez parfois. Quand ça arrive, je me tais. J'attends que la moutarde redescende. Je réfléchis à ce que je veux dire, comment je veux le dire. Puis après ça, je vais intervenir. Si je dois absolument intervenir tout de suite parce que, bon, les enfants sont en train de chamailler ou, tu sais, il faut partir pour l'école, puis bon, l'ado se traîne les pieds. Si je dois absolument intervenir tout de suite, je vais mettre le moins de mots possible parce que plus je mets de mots, plus il y a de chances que je tombe dans les reproches, les critiques, puis qu'on tombe dans une... Fait que je vais faire ça le plus court possible. Go! On part maintenant. Stop! Ça suffit. Ça sera peut-être juste ça. Plus je parle, plus il y a de chances que je l'échappe. Si je, la moutarde me monte au nez, puis que je n'arrive pas à intervenir, si mon conjoint est là, je vais peut-être lui donner le relais. Dire, là, intervention, va chercher l'ado qui se traîne les pieds parce que là, je commence à manquer de patience. Je vais peut-être donner le relais. Peut-être aussi que je vais décider de lâcher prise et dire, bon, mais regarde, on arrivera en retard ce matin, là, parce que entre arriver en retard puis que je lui tombe dans la tomate puis que ça dégénère, ben je pense que le moins pire des mâles, c'est qu'on arrive en retard puis qu'il assumera les résultats. Ça peut être ça. Je peux utiliser, bon, on a parlé régulièrement de l'intervention du choix. Je peux lui donner le choix. Dire, OK, là où tu te dépêches, ou bien si on arrive en retard ce soir, tu as du temps à reprendre. Ça peut être ça. Il y en a plein de méthodes d'intervention autres de crier, hurler, menacer, dénigrer, faire peur. Allez voir, je vous l'ai dit, là, ma chaîne YouTube, puis suivez les ateliers, on va vous en donner encore plein de ces trucs-là. Mais il y a toute une gamme de possibilités. Si j'ai un jeune, tiens, je vous invite aussi à aller voir une des vidéos, puis c'est un élément central qu'on va revoir dans le programme Parents Leaders qu'on va lancer bientôt, la méthode coach. Si régulièrement le matin, mes enfants se traînent les savates, c'est long, ils perdent leur temps et j'ai l'impression que je dois constamment lever le ton pour qu'ils bougent, bien, dans un moment où tout va bien, un samedi matin, j'ai pris mon petit café réglementaire ou deux ou trois, puis j'ai peut-être mis du Baileys dedans, bien, je vais m'asseoir avec eux pour dire « OK, gang, là, on a un problème. » Le matin, je me retrouve à être obligée de faire le général de l'armée. J'aime pas ça, j'aime pas l'ambiance, mais j'ai comme l'impression que si je suis pas derrière vous pour vous pousser dans le derrière et vous dire « Hey, tu bouges pas », bien, vous traînez les pieds et on va arriver en retard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on va aller dans la recherche de solutions ensemble puis de nommer, bien, tu sais, c'est quoi les impacts négatifs d'eux? Et là, bon, ben, tu sais, je vais ajuster ma conversation à l'âge des enfants. Si j'ai des enfants de 4-5 ans, ben, ça va peut-être être de dire, ben, vous savez, le matin, là, hein, des fois, là, maman vous demande de vous habiller, puis des fois, ça prend trop de temps. Peut-être que je vais, bon, je sais pas, moi, si c'est le matin, je vous donne l'exemple du matin, là, mais ça peut être le soir, les devoirs et leçons, n'importe quand. Si c'est, tiens, par exemple, à l'heure du coucher, que mes enfants, je dois répéter, ils ricanent, ils niaisent, ils sauvent, ils font des conneries. Et là, je réalise que je tombe dans « Hey, tu te couches, là, ça suffit! » Vous comprendrez que de coucher un enfant, le mettre au lit le soir avec de la peur, avec un rapport de force, avec de l'agressivité, c'est pas ce qui favorise le meilleur sommeil réparateur. Hein? Puis une fois qu'ils sont couchés, on est là comme on est sur le divan, on fait... On se sent pas très bien, on se sent coupable. Ben oui. Ben là, tu sais, si je réalise que c'est régulièrement comme ça, ben il va peut-être être temps que je prenne du recul. Ça aussi, tu sais, puis là, je commence déjà à vous parler du programme Parents Leaders. Steve vous en parle, un de nos parents leaders. Mais dans le programme, nous autres, on va vous offrir bientôt un programme d'accompagnement sur un an. Là. Puis on décortique tout ça, on vous donne un paquet de trucs, etc. Sur un an minimum, parce qu'il y en a qui c'est un abonnement à vie. On le décortique un petit peu, mais pour faire une histoire courte, ben, tu sais, si je réalise que régulièrement, l'heure du coucher est difficile, que mon enfant, les cornes y poussent, que moi, je finis par hausser le ton, menacer, punir, etc., mais il va peut-être être temps que je prenne du recul et que je me pose des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui génère ça? Et là, peut-être que je vais revoir ma stratégie, mon plan d'action à l'heure du coucher pour que ça se passe bien. Tu sais, par exemple, si je réalise que, bon, j'ai deux jeunes enfants, un de 4 puis l'autre de 6, puis le soir, avant de se coucher, wouh, le party pogne, puis là, ils rigolent, puis là, ils s'encouragent un et l'autre, bien, peut-être qu'une des stratégies, ce sera, bien, papa fait la routine avec un, maman fait la routine avec l'autre, puis on les garde éloignés. Peut-être qu'on va en coucher un peu plus tôt, l'autre un peu plus tard, pour éviter que, bon, ils s'ambitionnent un et l'autre. Peut-être que, on va installer une plage horaire de détente, une histoire ou un petit film agréable juste avant le dodo pour les aider à s'apaiser. Peut-être qu'au contraire, on va faire comme, ouais, tu sais, moi, j'avais réalisé ça avec ma fille que, elle, ben, tu sais, le soir, j'avais comme trop tendance à être dans tranquille, 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 tranquille. Donc, on arrivait, tu sais, de la garderie ou de l'école. Là, c'était, bon, souvent, on faisait un jeu calme parce qu'il y avait eu une journée, une grosse journée, on avait besoin de se reposer. Ensuite, on soupait. Ensuite, c'était le bain. Ensuite, c'était un jeu calme. Puis ensuite, c'était le dodo. Ma fille a du gaz d'avion. Ben, tu sais, il n'y avait aucun espace-temps dans la soirée où elle dépensait son gaz d'avion. Fait qu'on a décalé l'heure du coucher pour qu'on ait une période d'à peu près une vingtaine de minutes où elle dépensait son énergie. Donc, t'sais, éventuellement, si je réalise que c'est souvent difficile au même moment et que je tombe souvent dans le piège de hausser le ton et de venir avec un ton militaire, ben, il va falloir que je fasse wow, 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 qu'est-ce qui est en train de se passer? Et prendre du recul et me poser les bonnes questions. Isabelle dit, j'ai de la misère à comprendre comment un prof peut faire ça et comment les autres profs ont pu tolérer ça. Je ne comprends pas. Effectivement, c'est dur à comprendre. On ne saura pas le fond de l'histoire, mais tu sais, l'objectif, comme j'ai dit, ce n'est pas tant l'analyse d'elle ou de ce qu'elle a fait elle comme ramener ça à nous. Puis se dire, ouais, ben tu sais, nous, ça se peut qu'on tombe là-dedans de temps en temps. Je viens voir. Good, good, good. Je ne peux être que l'apôtre du programme pyramidal. L'apôtre! Oh, Steve, j'adore ça! Parce que ça a complètement changé ma vie, mon état d'âme. Merci. Stéphanie a dit, mettons que tu mets beaucoup d'efforts à mettre le climat, à avoir une approche bienveillante, mais que tes ados, jeunes adultes, ne portent pas leur propre poids. Ben, c'est là aussi, tu sais, parce qu'effectivement, tu sais, bon, prenons l'exemple, un exemple assez régulier. Je réalise que, bon, tous les soirs, tiens, quand c'est l'heure des devoirs et leçons, moi, j'ai beau avoir une belle attitude, j'ai beau être dynamique, être dans l'humour, tata, je mets un beau climat. Mon jeune, malgré tout, c'est ah, OK, hein? Un grand classique, là. Ben là, j'ai pris conscience de OK, ben, moi, j'ai comme une belle attitude de leader. Hein? T'sais, nous, on est responsable des moyens qu'on prend, pas forcément du résultat. Donc, OK, moi, j'ai fait une. Je prends du recul. Je fais OK, ben, moi, je trouve que j'ai une belle attitude, là. Je trouve que je mets une belle ambiance, là. Je trouve que je suis empathique. Hein? Ça m'est arrivé de dire, ouais, tu sais, ça te tente pas hein, ce soir les devoirs et les leçons. Ouais, je comprends ça, pauvre coco, hein, c'est pas facile pour toi. Je te comprends, tu sais, le soir, des fois, on est fatigué. Bon, j'ai mis une belle ambiance. J'ai accueilli son émotion avec empathie. Je me suis assurée que mes attentes étaient claires. Hein, pis, et non négociable. Donc, j'ai dit clairement, écoute, malgré tout, mon loup, même si tu es fatigué, même si ça ne te le tente pas, les devoirs, on n'a pas le choix. OK, alors je suis là pour t'aider, mais ça va me faire plaisir de t'aider, mais tu vas devoir faire un effort sur ton attitude. OK? Regarde, on s'y met, mon loup. Si c'est un ado, moi, il parlait avec un ton d'ado. Dis, écoute, je te comprends tellement d'être fatigué, d'être brûlé, que ça ne te le tente pas, mais c'est parce que, regarde, on n'a pas le choix, là. Et, je sais pas, moi j'ai demandé de vider le lave-vaisselle, puis tu sais, des fois ça va m'arriver de dire à mon ado, tu sais, qui rouspète un peu quand je lui demande des tâches, je dis, ben tu sais, mon loup, je comprends que tu comprennes pas, là, je comprends que tu sois pas d'accord, mais c'est non négociable. C'est ça et c'est tout. T'sais, donc, tu hein? Tu as le choix, tu le fais avec bonne humeur ou avec une humeur potable, ou tu le fais en bougonnant, mais il faut que tu le fasses quand même. OK? À différencier de, regarde, tu as le choix là. Ou bien tu le fais en chiolant, ou bien tu le fais avec une bonne humeur, mais c'est non négociable. Hein? Gna, gna, gna. C'est pas pareil. Bon. Est-ce que j'ai mis une belle ambiance? Est-ce que j'ai demandé ça sur un ton agréable? Est-ce que j'ai été empathique? Est-ce que j'ai mis des attentes claires et quand même relativement fermes? Bien là, peut-être qu'après, je pourrais monter un petit peu plus au niveau de la fermeté, puis arriver dans hey, oh! Non, c'est non négociable. Et oui, c'est maintenant. à différencier encore une fois de « Hey, c'est non négociable et tu le fais tout de suite! » Hein? C'est pas pareil, là. Hein? Je suis ferme. Un petit peu plus dans la fermeté. Mais je peux tomber dans l'intervention du choix. Dire « Écoute, mon grand, tu as le choix, là. Ou bien tes devoirs, c'est avant le souper ou après le souper. Ça ne te tente pas ce soir, mais c'est non négociable. Tu vas devoir faire tes devoirs. Est-ce que tu les fais avant le souper ou tu les fais après le souper? » Le jeune avec qui j'ai demandé, je ne sais pas, on m'a vidé de la vaisselle, puis qu'il s'oppose, puis qu'il rouspète, puis qu'il chiale, puis tout ça. Je ne pars pas dans des engueulades avec en disant « Mais là, moi, je fais tout pour toi. » Puis là, non. Regarde, c'est non négociable et c'est tout. Ça veut dire « Bien, écoute, tu as le choix, là. Pour avoir accès à ta tablette, et pour pouvoir jouer à ce que tu veux après ou pour pouvoir faire telle chose, tu vas devoir avoir fait ta tâche. Il ne se passe rien dans ta vie tant que la tâche n'est pas faite. Si tu refuses l'affaire, je vais finir par la faire en bout de ligne. Mais ça veut dire que tu passes ta soirée avec rien d'autre. Bon, ça se peut que ce soit ça. C'est un exemple. Il pourrait y avoir plein d'autres interventions possibles. Mais de tomber dans des prises de bec, de tomber de façon régulièrement dans les « un, c'est non », ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas efficace. Oui, Audrey qui dit « Ajoutons des 5 minutes de cœur à cœur avec nos cocos. » Ça aide tellement à la collaboration. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Audrey. Allez voir sur ma chaîne YouTube 5 minutes de cœur à cœur. Ça fait toute la différence. Ça nourrit la relation et la relation nourrit le plaisir de collaborer. Hey, ma belle Regina qui est là, un petit coucou rapide pendant ma pause de travail. Cool! Voyons! Nancy qui dit « Le programme Parents Leaders m'a tellement aidé à donner beaucoup de prise de conscience, ça a changé la relation avec ma fille. » Merci, Mélanie, Nancy. Cool! Hey, gang! Ce sera tout pour aujourd'hui. On va continuer, dans le fond, dans les prochaines semaines, à se parler de fermeté bienveillante, de leadership éducatif, de plein de stratégies pour justement réussir à trouver cette espèce d'équilibre-là, pour effectivement ne pas tomber dans une approche débonnaire où on laisse l'enfant faire ce qu'il veut puis se mettre en position de soumission à notre enfant. On ne veut pas ça, c'est bien normal. Mais on va aussi voir plein de stratégies pour être capable d'appliquer de la fermeté quand il le faut, sans tomber dans l'agressivité. Donc, bref, servons-nous de la leçon que cette dame-là, l'enseignante, nous a permis d'avoir pour juste se regarder soi et se dire « OK, est-ce que ça se peut que parfois je tombe dans l'agressivité? T'sais, est-ce que ça se peut que j'exprime ma colère par de l'agressivité? L'irritation est normale, mais est-ce que je l'exprime par de l'agressivité et ou de la violence? » Je vous invite donc aussi, on va vous remettre sur... je termine là-dessus vite, là. Ah, zut! Et voilà, OK. Ça ne marchera pas, mon affaire. Je vais vous mettre l'échelle aussi de fermeté bienveillante. Là, je vous la mets sur la page juste après. Là, j'ai une petite entrevue radio, puis je vous la mets juste après là, pour voir, mais tu sais, où est-ce que je me situe? La fermeté bienveillante, c'est le juste milieu. Des fois, on peut être plus dans la douceur et c'est correct. Il y a plein de jeunes, ben, j'espère qu'on est plus souvent qu'autrement dans la douceur. Puis il y a plein de jeunes que même, tu sais, quand ça ne va pas, intervenir avec de la douceur, ça fonctionne super bien. Et de l'autre côté, un petit peu plus des fois de la fermeté, ça peut arriver. Mais là, après ça, on va éviter d'aller dans les extrêmes. Alors, on continue, les amis, à grandir ensemble. Et puis, bien, si jamais on réalise à travers tout ça qu'on avait tendance à tomber dans l'agressivité, la violence, on va se le pardonner. Soyons indulgents envers nous comme on veut être indulgents envers nos enfants. Et donc, soyons indulgents, pardonnons-nous. Essayons juste de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être de meilleurs parents leaders et offrir un beau climat familial à nos enfants, un climat familial qui va les élever plutôt que de les soumettre et de les faire sentir petits. Bye-bye tout le monde. Bonne semaine.